Chapitre 7. Vers 4 heures du matin, la fraîcheur me réveilla. Je finis de me déshabiller, passer ma chemise et constater que j'avais faim. Enfilant une robe de chambre, je me saisis d'une lampe et descendis à la recherche des cuisines. Chemin faisant, j'étais à nouveau frappé par les queues éparses dans le décor, qui prenaient enfin à mes yeux leur véritable signification. Contrairement à toute attente, il s'agissait d'attributs thérapeutiques. Une île tout entière, des collections d'art, une bibliothèque, un journal, l'histoire elle-même et jusqu'à des êtres humains avaient été truqués pour qu'une petite fille puisse se croire pareille aux autres. Jamais effort plus vaste, plus ingénieux n'avait été accompli pour conjurer une fatalité à première vue sans remède, et dans ce trompe-l'œil s'exprimait un amour paternel omniprésent qui jetait dans une admiration non exempte de malaise. Pour préserver sa fille unique du mauvais sort, Lord Melrose était probablement capable de tout. Le clair-obscur qui environnait le déplacement de ma lampe était propice à des pensées inquiètes. Sir Randolph avait accepté bien facilement la prolongation de mon séjour. Ne caressait-il pas l'intention de me retenir contre mon gré? Le véritable secret de Galena House était connu d'hommes d'église et de médecins dont la discrétion allait de soi. Il était connu de familiers ou de domestiques qui avaient le plus grand intérêt au silence. Ma propre discrétion n'était garantie que par mon honneur, et Lord Melrose avait assez vécu pour savoir ce que vaut le terme chez la plupart des gens. Si je succombais un jour à la tentation de porter la queue de Parthenope sur la place publique, de faire une communication à l'Académie de médecine, c'en serait fini de la relative tranquillité de Lord Melrose et de ses assistants. Et cette queue deviendrait vite d'autant plus célèbre que c'était une queue de lady, une queue aristocratique qui aurait tout pour passionner les hommes de science comme les foules. Il y avait de quoi me retenir, me verser même un mauvais café. L'amour a ses folies comme la méchanceté. Un père n'organise pas un Galena House sans être un peu braque au départ. Et s'il ne l'avait pas été, il le fût devenu à force de polir une idée fixe. Jusqu'où Lord Melrose irait-il pour préserver son œuvre de tout risque de ruine? Il y avait un faible ray de lumière sous la porte de la bibliothèque que la curiosité me fit entrouvrir. Parthenope, en chemise et peignoir, gravissait l'échelle de merisier, un livre à la main, et comme je la voyais par hasard à contre-jour, je fus saisi par le gracieux mouvement de la queue redressée qui rappelait celui de la queue de son père montant à cheval, tel qu'il avait été représenté sur le tableau de la salle à manger. Observateur plein de tendresse, Lord Melrose s'était fait peindre à l'huile une queue inspirée de celle de Parthenope, en train de grimper. Il ne négligeait vraiment aucun détail. Parthenope rongea soigneusement son livre dans son compartiment dont elle avait entrebâillé la porte, laissant la clé sur la serrure, et elle en choisit un autre qu'elle descendit et se mit à feuilleter sur ses genoux, assise au creux d'un grand fauteuil rouge, capitonné de cuir de Russie. Ce va-et-vient n'avait pas fait le moindre bruit. Je m'approchai moi-même silencieusement sur les tapis de Perse jusqu'à jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de la jeune fille. J'avais connu à Galena House bien des étonnements, mais cela fut peut-être le plus fort. Parthenope parcourait un album d'estampes chinoises dont la pureté de trait ne faisait que mettre en valeur le caractère licencieux. On devine ce dont sont capables les Chinois, peuple naturellement lubrique et chauffé par maintes épices. Mais ici, les nudités dévoilées étaient rendues plus affolantes encore par les impudiques fantaisies auxquelles se livraient les queues des deux sexes, comme si une vie indépendante les eût possédées. Tel gros Chinois balançait son aimé sur une escalopette en l'attirant par la queue. Un autre chatouillait du bout de sa queue tel ou tel orifice que la pudeur se refuse à nommer. Un autre, pénétrant plus avant, se servait de sa queue comme d'un goupillon. Un autre encore avait enserré de sa queue puissante le cou gracile d'une jeune fille, dont les lèvres s'étaient refermées sur une virilité plus ordinaire. Je renonce à décrire davantage ce ballet de queues orientales qui, voltiger, se marier, se nouer et se dénouer, se manier et se magnoter au sein d'un classicisme qui semblait avoir derrière lui de longs siècles d'expérience. Ma stricte éducation ne m'avait pas permis d'apprécier, en matière artistique, l'érotisme le plus banal, et pour la première fois que des images de ce genre me tombaient sous les yeux, des queues chinoises y tenaient une place d'honneur. Ce n'étaient plus les tristes et mécaniques copulations de la couronne, où des rebuts d'humanité cherchaient un bref soulagement à leur misère, mais des visions élégantes, au graphisme dépouillé, aux couleurs délicates, que les artistes pressentis avaient nuancées d'un certain humour. Ces petits tableaux s'adressaient au sens comme à l'esprit. J'en avais la respiration haletante, songeant malgré moi à la queue de Parthénope cachée au fond du fauteuil. La jeune fille se retourna soudain, poussa un léger cri et referma précipitamment son album. Bien que nous fussions à peu près du même âge, je parvins à prendre un air froid et sévère de censeur pour lui dire « L'heure de cette lecture, mademoiselle, me donne à croire que ce n'est pas votre père qui vous a confié cette clé, n'est-ce pas ?» Rougissante, Parthénope balbutia piteusement.
« Elle est au fond de la tabatière Louis XV !»
Puis, faisant effort pour se reprendre, elle ajouta
« Si d'ailleurs je m'intéresse ce soir à des choses pareilles, c'est à cause de vous. Mais oui, papa nous a annoncé au dîner que vous étiez décidément le plus honnête garçon du monde qui avait perdu sa queue très jeune et que vous restiez quelques jours de plus comme je l'avais demandé. Mais ce que je ne distingue toujours pas très bien, c'est le rapport précis qu'il pourrait y avoir chez d'autres jeunes gens entre l'absence de queue et ces mœurs que j'ai parfois pu noter chez mes jeunes chiens. J'ai l'impression qu'on me dissimule quelque chose. »
C'était à mon tour d'être gêné par ce retour de bâton ridicule, conséquence imprévue de la vicieuse imagination de Babington. Dédaignant de discuter, j'engageai Parthénope à remettre son album en place, ce qu'elle fit en soupirant. Je fus ému de nouveau jusqu'à en trembler par la vue de cette queue qui se redressait à contre-jour, accompagnant le corps dans son mouvement ascensionnel. Comme Parthénope, donnant un tour de clé à partir du dernier échelon, laissait machinalement retomber sa queue, je suppliai d'une voix étranglée « Relevez donc encore votre queue, si elle est si jolie en ombre chinoise. » Mais pour toute réponse, Parthénope, moqueuse, fit un signe négatif de la queue. Ce mouvement droite-gauche m'impressionna fort. Il s'agissait vraiment d'une queue humaine, puisqu'elle était capable de participer à une conversation, voire d'exprimer un état d'âme. Durant la descente, Parthénope me priva de tout effet de queue plaisant, et quand elle se retourna, son brusque changement de physionomie me fit comprendre que nous n'étions plus seuls. Je me retournai à mon tour, Lord Melrose était là, avec une tête assez inquiétante d'insomniaque fureteur. Pour des raisons diverses, nous étions très gênés tous les trois. Négligeant ma présence, mais il était probable que je ne devais rien perdre pour attendre, Sir Randolph, la mine encore allongée, s'adressa de sa voix lasse à Parthénope.
« Vraiment, vous me décevez, ma chère. Pourquoi ne pas m'avoir demandé cette clé ?»«
Parce que vous me l'auriez refusée. » »«
Qu'en savez-vous ? Tout ce qui est ici ne vous appartient-il pas ? Est-il à Kalinaos une pensée, un objet qui ne puisse vous concerner ? Mais il est un temps pour chaque distraction. Ne pouviez-vous pas attendre votre mariage ?
Avec qui ?
Allons, je vous laisse cette clé. Ce sera votre punition. »
La prodigieuse mansuétude de Lord Melrose, dont il se pourrait que le lecteur de 1980 fût lui-même scandalisé, m'encourageait à voler au secours de Parthénope, sans oublier de me justifier moi-même par la même occasion. J'expliquai par quel hasard je venais de la rencontrer et ce qu'elle m'avait dit pour faire excuser sa curiosité. Non sans malice, je précisai « Il me semble, milord, que c'est moi le principal responsable de cette picadille. On ne se présente pas sans queue et sans passeport dans une société aussi choisie. » Durant ma mise au point, Parthenope avait repris sa lampe, remis sa clé dans la tabatière et, après une rapide et confuse révérence, s'était éclipsé, la queue entre les jambes. Lord Melrose alla s'assurer que la porte de la bibliothèque était bien close, revint à moi et posa son bougeoir. J'avais soufflé la mèche de ma lampe en entrant dans la pièce pour que son halo ne révélât point prématurément ma présence à Parthenope et, à la lueur d'une unique bougie, la physionomie de mon hôte était plus lugubre que jamais. Surmontant une gêne épaisse mais fuyant mon regard, Sir Randolph me dit à voix basse
« L'existence de cette petite bibliothèque condamnée a de quoi vous surprendre. Elle traduit pourtant l'une de mes plus légitimes obsessions. » Ma Parthenope grandit. Elle envisage naturellement de se marier un jour ou l'autre. Son instinct de chasseresse, sa connaissance des mœurs animales, lui font d'ailleurs considérer les choses du sexe sans la moindre pudibonderie, à la différence de ces jeunes filles anglaises qui ne peuvent entendre râler un matou en chaleur sans s'évanouir. Or, je n'ai point, pour la dissuader du mariage, l'équivalence de ce Bonaparte qui rend les voyages au long cours si dangereux. Et d'un autre côté, Bentivoglio n'est pas à la veille d'inspirer la vocation du célibat. La petite avait beaucoup plus de sympathie pour Donegan malgré ses quelques défauts, ou à cause. La vocation du célibat aurait d'ailleurs ceci de catastrophique qu'elle risquerait d'inspirer le désir d'entrer au couvent. Mieux vaut encore que Parthenope rêve de mariage. Mais alors que dire ? Que faire ? Je m'attends à ce que, d'année en année, le problème se fasse de plus en plus cruel. Si Parthenope, en désespoir de cause, avait le mauvais goût de tomber amoureuse d'un de ces rares visiteurs qui viennent promener leur queue par ici, elle serait amèrement déçue. Comble de paradoxe, si je me résolvais jamais à payer une fortune pour un tel mari, il ne pourrait pas même remplir son office puisqu'il se serait présenté avec une fausse queue. La situation est désespérée et les souffrances de ma fille sont miennes. À défaut de mariage, j'ai donc essayé d'offrir au moins à Parthenope les agréments du texte et de l'image, avec cette circonstance atténuante qu'il y a là une occasion des plus persuasives de bien asseoir dans un esprit neuf le mythe qui fait l'objet de tous nos soins. Voilà 6 mois que je dissimule cette clé avec le plus de maladresse possible. Si je suis entré tantôt, c'est parce que je n'ai vu que vous tout d'abord, tandis que Parthenope faisait du haut de son échelle des effets de queue qu'elle doit estimer aguichante dans sa naïveté. Mais elle a de bonnes excuses que la littérature érotique préparée à son intention insiste évidemment sur le rôle joué par la queue dans les approches amoureuses comme dans leurs conclusions. Il ne me paraît pas mauvais, en tout cas, que la curiosité de Parthenope pour d'autres queues que la sienne trouve un exutoire où se satisfaire. Me jugez-vous bien coupable ?
Je rassurai chaleureusement Lord Melrose. Je n'avais jamais vu père plus attentionné et j'aurais bien aimé que mon propre père me traitât de cette façon.
Il va sans dire,
poursuivit Sir Randolph, encouragé par ma réaction sympathique,
que tout est là-dedans du meilleur goût. Je me suis adressé à d'éminents spécialistes.
Et afin de mieux m'en convaincre, Lord Melrose, relevant sa longue robe de chambre à brandebourgs sur ses mollets poilus, grimpa à l'échelle clé en main pour me chercher une plaquette, parmi les œuvres les plus anodines sans doute, dont il me dit avec fausse modestie
« J'ai composé moi-même anonymement pour ma chère Parthenope quelques-uns de ces petits poèmes à la mode du siècle dernier. Ils vous feront passer un moment, j'espère. J'aurai aimé avoir un fils comme vous, compréhensif et délicat. »
Mais avant de me remettre l'essai, Sir Randolph ne résista pas au plaisir de me déclamer sur un ton pénétré qui se traduisait par un chevrotement étrange, l'un des dixains les mieux venus.
« Soupant à mon côté, prête à ton fier visage, à ton félin profil cet air d'altier mépris, cache sous ton fichu les fruits de ton corsage, que si peu de 16 ans jusqu'alors ont mûri. Sur mes propos galants, pince ta bouche close, sur ton étroit giron, croise tes menus bras. Mais tremblante vers moi, range à ta cuisse rose le plus secret trésor de tes chastes appas, que mes doigts caressant ta douce robe bleue rencontrent par hasard l'aiguillon de ta queue.
Sir Randolph me fit observer qu'il avait versifié en français par piété pour la mémoire de sa défunte épouse. L'atmosphère de Kalinaos m'avait tellement pénétré que le morceau ne me donna aucune envie de sourire. Je fus même parcouru d'un vague effroi à l'idée de ce vieux beau qui prenait sournoisement une plume de soupirant pour fournir sa ration de fantasmes à une fille qu'il jugeait condamnée à ne pouvoir se satisfaire autrement, et je ne pus m'interdire d'accepter la plaquette avec une visible répugnance. Lord Melrose se rembrunit et ajouta
« Trêve de baliverne, pourrais-je vous prier, monsieur Darwin, puisque je vous tiens entre quatre yeux, d'éviter tout entretien particulier avec Parthenope et même de surveiller à l'extrême votre conversation lorsque vous parlerez en sa présence ? J'ai déjà tremblé durant tous les déjeuners de ce dimanche. Ne prenez pas ma demande en mauvaise part, mais représentez-vous un instant ce que je puis ressentir. Je vis, bien sûr, dans une angoisse perpétuelle, angoisse de chaque jour, car chaque jour, un malheur irréparable peut survenir. Quel que soit le luxe des précautions et recommandations qui se flatteraient de tout prévoir, la méchanceté du sort est si déconcertante, elle emprunte des voies si détournées. Angoisse de l'avenir surtout, combien d'années encore pourrais-je maintenir Parthenope dans cette chaste prison sans éveiller sa méfiance ou anéantir toute sa joie de vivre? Déjà, elle s'ennuie. Et que se passera-t-il après moi? Babington, qui aura l'usufruit de ma succession dans l'intérêt de ma fille, sera-t-il manœuvré Bonaparte de façon convaincante ou polir d'autres pages grivoises qui consoleraient sans trop échauffer? Et s'il arrivait malheur à Babington, je n'ai malgré tout qu'une confiance limitée en Maclaurin, qui est trop souvent à Venise, dans le palais qu'il s'est acheté sur le Grand Canal. Vous comprendrez, jeune homme, qu'un anxieux chronique comme moi peut tout craindre d'une maladresse, d'une simple distraction de votre part. Nous autres sommes habitués, la comédie est devenue pour nous une seconde nature. Ma pauvre mère elle-même se rappelle inconsciemment toutes les leçons bien apprises et elle bat aujourd'hui la campagne d'une manière anodine. Mais vous, il suffirait d'un mot mal placé. »
Ne sachant trop quoi répondre, je pris le parti de répondre à côté. « Si je puis me permettre de donner à votre grâce le point de vue d'un observateur impartial, ce ne sont pas les sujets de crainte qui frappent ici, mais bien les sujets d'émerveillement. » Votre sollicitude paternelle, Milord, a réalisé un vrai record. Lady Parthenope est aussi heureuse qu'une jeune fille peut l'être dès qu'un Bonaparte est lâché dans la nature. Il en faudrait beaucoup, il me semble, pour la détromper. Et quand bien même le plus improbable des accidents arriverait-il, que votre grâce pourrait encore se dire avec une profonde et légitime fierté, Parthenope aura connu de longues années de bonheur, ces années qui comptent double parce que c'est le temps de la jeunesse. Ce qui est acquis est bien acquis, et personne, Milord, ne vous l'enlèvera. » Sir Randolph fut plus sensible que je n'aurais cru à cette maigre consolation, et son visage s'éclaira de façon touchante, rappelant quelques instants l'homme gai et inconscient qu'il avait dû être autrefois avant qu'une queue déplacée ne vînt infléchir le cours de son existence. Je fis alors valoir que, dans une pareille situation, il ne fallait pas viser à l'impossible. On ne pouvait rien faire de mieux, comme en médecine ordinaire, que de gagner du temps et de s'en réjouir. Ne passons-nous point notre temps à en gagner ou à en perdre jusqu'à ce que la mort nous rattrape? Et le plus bel art de vivre va-t-il jamais plus loin que de retarder les échéances fatales? Revenant à ce qui me préoccupait, j'osai avancer. Pour ce qui est de mes relations avec votre charmante fille, Milord, le risque de l'inquiéter par une maladresse me paraît bien faible à côté de tout le bien que mon amicale et respectueuse conversation pourrait lui faire. Ne suis-je pas, sauf erreur, le premier à être admis dans votre cercle sans y avoir été invité dans les formes? Je ne suis donc pas suspect d'avoir pris des leçons de maintien et de bavarder par bas intérêt comme un vulgaire Macpherson. La fine intuition de Lady Parthenope ne peut manquer de faire la différence. Tout ce que je raconterai prudemment des queues d'Angleterre prendrait certes à ses yeux une valeur sans précédent et sans défaut. Jusqu'à la perte de ma queue qui plaide en ma faveur à partir du moment où votre grâce a eu la bonté de la réputer innocente, j'ai lu naguère ici même les conseils circonstanciés de la baronne Staff d'Aigremont où se discernent les efforts de votre grâce pour retenir Lady Parthenope de regarder de trop près une autre queue que la sienne. Je suis, Dieu merci, à l'abri d'une pareille curiosité et même de tout imprévu. Par là, ma compagnie est beaucoup plus sûre que celle d'un Macpherson qui peut toujours laisser sa queue à pompons dorés dans la gueule dégoûtée d'un molosse. Avec un chasseur de cette espèce, nous sommes à la merci d'une lubie canine. Moralement et physiquement, milord, je suis digne de toute confiance. Mes arguments portèrent. Sir Randolph s'assit dans le fauteuil de cuir rouge, réfléchit un moment, le regard fixé sur l'échelle que Parthenope venait de gravir et de redescendre avec tant de grâce, et me dit enfin, assourdissant encore sa voix, « Parlons carte sur table, monsieur Darwin. Permettez que je vous appelle Charles. Pourquoi recherchez-vous la compagnie de ma fille sans me demander le moindre argent, comme Macpherson ou quelques autres ?» Est-ce l'étudiant en médecine, le petit-fils de l'auteur de la Zoonomia, qui est attiré par un cas original? Quand vous priez Parthenope de relever sa queue à contre-jour, est-ce l'homme de science qui se dévoile? S'il en était ainsi, le risque de jouer en vain avec les sentiments d'un être désarmé serait trop grand pour que je puisse me faire le complice d'une telle imprudence. C'est que vous n'avez pas de mal, mon cher Charles, à être plus séduisant que les autres visiteurs que je m'efforce, il est vrai, par l'intermédiaire de Maclaurin, de choisir assez rebutant pour décourager toute idylle sans lendemain. Mais vous, vous êtes jeune, vous n'êtes pas mal fait, vous êtes même distingué d'un esprit et d'une culture très au-dessus du commun. Et je crois que Parthenope s'en est déjà aperçu. N'êtes-vous point le premier garçon aimable qu'elle rencontre de sa vie? Alors, qu'avez-vous en tête? J'ai le droit de savoir et le devoir de vous faire dire la vérité. » Affreusement blessé de soupçons, je me récriai et, avec la fougue de mon âge, je me jetai franchement à l'eau. « Ma recherche n'a rien à voir avec la médecine, milord. J'aime tout simplement Parthenope. Malgré sa queue, à cause de sa queue, milord. » La stupéfaction de Lord Melrose était immense. L'hypothèse que la queue de Parthenope, qui lui causait tant de soucis, pouvait être un instrument de séduction, ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Et je lus même sur ses traits une certaine inquiétude, une certaine méfiance, comme s'il eût été choqué de trouver encore plus excentrique que lui. « Eh bien, » soupira Sir Randolph, « voilà une réaction pour le moins étrange. » La queue de Parthenope mettrait plutôt Macpherson dans un pénible état de nerfs que je dois traiter avec mon meilleur brandy, et j'avouerai même que j'ai malgré moi un haut de cœur lorsque cette queue me frôle par mégarde. Pardonnez cette suggestion, mais le traitement de Babington ne vous aurait-il pas un peu dérangé? Bien au contraire, il m'a aidé à voir les choses comme elles sont. Je serais mal, songez un peu, milord, à quel point vous êtes prévenu en fait de queue. Vous savez que la queue de Lady Parthenope est véritable, mais qu'elle est la seule à l'être jusqu'à nouvel ordre. Partant, vous êtes condamné à y renifler quelques anomalies. Vous ne jugez point d'une queue en soi, mais par rapport à un préjugé statistique. Ainsi, votre esprit est-il faussé au départ? Inversement, j'ai trouvé ici une société où tout le monde portait des queues, que j'ai toutes crues authentiques de longs jours durant. La normale, c'était moi, et on me l'a fait sentir. La queue de Lady Parthenope fut d'abord à mes yeux une queue parmi bien d'autres. Le malaise où elle me jetait ne tenait point à sa singularité, mais à des qualités intrinsèques. Bientôt même, le malaise originel fit place à un intérêt de plus en plus vif. Je me sentais profondément troublé par le charme de cette queue. Il me semblait que les femmes étaient faites pour posséder une queue, que cet appendice leur donnait une saveur, une légèreté, un frémissement à nul autre pareil. Toute votre industrie, milord, avait eu ce résultat inattendu qu'elle m'avait permis d'apprécier la queue de Lady Parthenope en toute indépendance d'esprit et de sensation, non pas comme une honteuse anomalie, mais comme un supplément de beauté, comme une indispensable perfection. J'aimais, j'adorais cette queue parce que c'était la plus jolie queue de la terre, celle de Parthenope, et qu'elle lui allait à ravir. Et lorsque j'appris par hasard que la queue était unique en son genre, le pli était pris de vibrer à sa vue et même à l'idée de sa présence. Dès lors, son unicité était pour moi une qualité de plus. Je serais bien bête de ne pas chérir un objet charmant sous prétexte qu'on ne l'a vu qu'une fois. Lord Melrose n'avait pas l'air trop convaincu. Emporté par mon élan, j'improvisai un petit discours que je devais avoir tout le reste de mon existence pour prendre au sérieux. Si l'on quitte le domaine de l'inclinaison amoureuse, qui est affaire de goût et de couleur, pour celui de la théorie scientifique, il est permis de penser que la queue de Lady Parthenope se présente comme une résurgence de temps héroïque où l'homme avait une queue parce qu'il était frère ou cousin de ces animaux qui en sont, encore aujourd'hui, communément dotés. À la lumière de cette hypothèse aussi logique que séduisante, la queue de cette jeune lady, loin d'être une anomalie bizarre comme il y en a tant, apparaît sous l'aspect le plus engageant, le plus favorable et le plus flatteur. Nous avons affaire à une précieuse relique de temps révolu. J'irai jusqu'à suggérer que, dans le cours de cette grandiose évolution biologique que j'imagine d'ici, Lady Parthenope, avec son magnétisme animal qui s'accompagne à merveille de traits si révélés, est peut-être plus normale que nous autres incomplets qui avons égaré nos queues au fond d'une caverne préhistorique. L'homme aura un jour perdu sa queue, que notre Parthenope vient de retrouver et de révéler avec panache. Souffrez donc, milord, que je tienne cette queue pour un incomparable chef-d'œuvre de la nature d'aujourd'hui et d'autrefois. Si le monde était mieux éclairé, il en serait persuadé tout comme moi. Pour le coup, Lord Melrose était ravi. Et telle est l'influence du vocabulaire que j'étais moi-même impressionné par une trouvaille si réconfortante qu'elle eût mérité d'être vraie.
Savez-vous bien, me dit Sir Randolph, que Babington soutient une théorie du même genre de cette façon assez fameuse, il est vrai, la coïncidence de vos vues donne néanmoins à réfléchir. Mais le père Bentivoglio, l'œil du Vatican, est radicalement opposé à toute explication où Adam et Ève pourraient figurer avec une queue, comme s'il avait le portrait de leur derrière en poche. Un tel dogmatisme fait bon marché des intérêts moraux de Parthenope et de ma sensibilité de père, à plus forte raison de la vôtre, puisque vous dites être amoureux. Sir Randolph s'assombrit. La philosophie spéculative était un terrain plus rassurant que les amours immédiates, et il me déclara avec bon sens « Tout cela est bien joli, et je suis heureux que la queue de ma fille vous plaise pour de bons motifs, mais comme je ne pense pas que votre intention soit d'épouser Parthenope, l'ardeur de vos sentiments serait plutôt une excellente raison de la laisser tranquille. » Mis brutalement au pied du mur, je me découvris incapable de me fixer une conduite. Parthenope m'affolait, mais le mariage était une autre paire de manches. Puisque mon séjour se prolongeait, il était de nouveau urgent que j'écrivisse à Shrewsbury, mais si je devais annoncer dans ma lettre que je m'étais fiancé avec une lady agrémentée d'une queue, je n'aurais jamais le courage de prendre la plume. Ce simple fait en disait long sur l'embarras de ma position. Plutôt que de prononcer des paroles que j'aurais pu regretter, je baissai la tête en silence. Lord Melrose se leva et, me mettant la main sur l'épaule, « Vous voyez, mon garçon, à quel point la vie est contrariante. Pour une fois que Parthenope, qui a 300 000 livres sterling de dot, trouve un parti présentable, je dois moi-même donner des conseils de prudence. Si vous étiez mon fils, un tel mariage me décevrait un peu. » Après cet euphémisme, Lord Melrose se retira tristement, me laissant avec une plaquette de poèmes dérisoires. Je n'avais plus faim. Remontai me coucher et dormis fort mal.